CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Assis sur sa cheminée, Georges sous sa sapin est passé chez Soche en chausson.
Les défis Soche.
Ce Père Noël séchant ses chaussons sur sa cheminée, passe chez Soche sans souci. Assis sur sa cheminée, Georges sous sa sapin est passé chez Soche en chausson. Il sort de sa cheminée assis sur son sapin sans se soucier de ses chaussons en passant chez Soche.
Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces chausses? Découvrez la super promo mobile de Noël sur Soche.fr. Soche!
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information. Une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
2018. C'est dans le but d'économiser 3 piastres.
Ça, c'est comme le prix de 3 bières.
Le gouvernement provincial a décidé de couper d'une shot le projet de l'Université de l'Ontario français et notre commissariat au service en français.
On en a une, l'Université franco-ontarienne?
Non, pas encore, mais ça s'en venait. À Toronto en 2020.
Pourquoi à Toronto? Les francophones sont dans le nord puis dans l'est.
Oui, mais ça va changer. Le centre-sud-ouest de l'Ontario a la communauté francophone qui grossit le plus vite.
Puis les programmes universitaires à Toronto en français, c'est comme les jokes dans cette capsule-ci.
Il y en a pas beaucoup.
Puis 75% des jeunes franco du sud suivent leurs études postsecondaires en anglais.
Ça, c'est tous des francophones qu'on perd.
Puis au nombre qu'on est...
C'est pour ça que c'est grave.
Et oui, soyez parmi nos invités VIP du temps des fêtes du 23 au 30 décembre 2018. Comme à chaque année, Potpourri Show vous propose un tour du monde avec ses correspondants. Quels sont les succès des chansons du monde francophone en 2018? Quelles sont les personnalités francophones en Ontario, au Canada et dans le monde? Quels sont vos coups de cœur ou vos coups de gueule en 2018? Vos mots et vos expressions préférées. À la veille du nouvel an, la nostalgie s'entremêle à la fébrilité du renouveau qu'inspire le 1er janvier 2019. Du 23 au 30 décembre, le tour du monde des correspondants, une édition inédite avec DJ, invités surprises, des nouvelles voix d'Haïti, des Antilles françaises, de l'Europe, du Canada et du continent africain. Du 23 au 30 décembre, le tour du monde des correspondants. Soyez parmi nos invités VIP du temps des fêtes sur CUT 89,5 FM. 23, 30 décembre, le tour du monde des correspondants. Merci de votre fidélité et toute l'équipe de la radio vous souhaite de joyeuses fêtes.
Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Mesdames, messieurs, où que vous soyez à travers la planète, on vous envoie un bonjour très chaleureux en direct de Toronto, Ontario, Canada. Bonjour à Marcel qui est sur le sable chaud, je l'espère, dans le sud. Le sud. Et bien le bonjour aussi à tous ces informateurs, informatrices de la fonction publique qui nous ont envoyé des messages très très pertinents. Eh oui, bonjour et merci à monsieur Christophe Plantineau de l'Alliance française de Toronto. Et un merci chaleureux aux membres de la Société d'histoire de Toronto pour les bons vœux, la belle carte. Et merci pour votre beau message. Dimanche prochain, je vous rappelle en direct d'Haïti, Port-au-Prince, avec le directeur en chef de Info Citoyen, monsieur Obed Lamy, jeune haïtien. Eh oui, il sera des nôtres pour la première fois pour nous dresser le bilan d'Haïti, mais aussi son mot, son expression préférée. CUT 89,5 FM, les partenaires aujourd'hui, la Comédie Française, Cineplex Cinéma, Icelandair, l'Orchestre Symphonique de Toronto, Dr Youssouf Kalogo, notre invité à 11h30, et RFI Musique. Et oui, justement, invitation aux amoureux de la langue française. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner des billets de Cinéplex ou encore de nombreux cadeaux de nos partenaires. Allez manger dans des bistrots, les meilleurs bistrots français ou autres dans la région de Toronto. Quel est le nouveau mot de l'année 2018? Répondez avant le 23 décembre à popourri@cut.fm. L'ingénieur du son, DJ Deborah, accompagné de Sloane Ballant qui est en vacances. Production animation, votre serviteur Eric Adair avec vous sur www.cut.fm. Oui, oui, mesdames, messieurs, aujourd'hui en ce 16 décembre, le menu du jour, crise linguistique en Ontario, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario passe en mode supérieur. Et connaissez-vous les dernières victimes du couperet du gouvernement Ford en Ontario? Et aujourd'hui, place à l'environnement. En dernière heure, nous venons d'apprendre que COP24 en Pologne, un accord, l'accord de Paris, adopté avec des compromis. On vient de l'apprendre. Plus près de nous à Toronto, lancement d'un tout nouveau livre, Digestion anaérobie des eaux usées. Et oui, c'est un nouvel ouvrage consacré principalement aux réacteurs de traitement des eaux usées, domestiques et industrielles, qui vise à aider les ingénieurs. Mais nous allons essayer de descendre au niveau de monsieur et madame tout le monde pour décortiquer le message très technique de ce livre avec l'ingénieur, le docteur Kalogo. Eh oui, ingénieur, auteur, conseiller pour les gouvernements, y compris le gouvernement d'Ontario, et candidat déchu des dernières élections scolaires à Toronto, sera des nôtres à 11h30 aujourd'hui. Acte 5 des Gilets jaunes. Les Marianne, seins nus, qui sont ces femmes qui ont milité hier à Paris? Eh oui, y a-t-il encore un avenir pour les Gilets jaunes? Et pourquoi les Français détestent tant avec passion leur président et leurs élus? Eh oui, hier c'était le cinquième samedi, mobilisation avec 66 000 manifestants, nous dit-on, recensés dans toute la France. Au plaisir de certains, au dégoût pour bien d'autres, des Gilets jaunes à Toronto, eh oui, et Montréal, des groupes anti-immigration appellent à manifester. Qui sont-ils et quelles sont leurs revendications? On en parle avec notre correspondant, monsieur Marc-Albert Cormier, conseiller consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, un homme engagé dans la francophonie ontarienne et canadienne. Eh oui, et je vous rappelle que Emmanuel Macron, en dernière heure, nous venons d'apprendre que le président français et ses ministres renonce à une augmentation de salaire. Oui. Bonne nouvelle. Changement de garde à l'Association des communautés francophones de l'Ontario, l'ACFO Toronto. L'organisme peine quelque peu à se donner l'élan nécessaire par les temps qui courent. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas l'ACFO Toronto? Envoyez-nous un message. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'image de cette association? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une association l'ACFO Toronto? Pour défendre les droits de qui? Pour faire quoi? Avec quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de sous. Envoyez-nous un message, madame, monsieur, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'ACFO Toronto à popourri@cut.fm. Lundi 10 décembre dernier, à Oslo, en Norvège, le docteur qui répare les femmes mutilées, mondialement connu, le docteur Denis Mukwege, s'est vu remettre le prix Nobel de la paix. Il en a profité pour lancer un message poignant aux dirigeants de la République démocratique du Congo et au monde entier. Et enfin, le célèbre musicien camerounais que j'ai déjà rencontré à quelques reprises dans les studios de Radio France Internationale à Paris, Manu Dibango, a soufflé, madame, monsieur, ses 85 bougies le 12 décembre dernier. On était de la fête. Le précurseur de la musique africaine mondialisée, une carrière exceptionnelle, une discographie très riche, de nombreux pays visités et d'hommages en tout genre. RFI Popourri Show vous lui consacre un moment spécial dès midi ce dimanche. Collaboration spéciale de Radio France Internationale Musique. L'année tire bientôt à sa fin, c'est devenu une tradition de fin d'année. Les dimanches 23 et 30 décembre, nous dresserons le bilan 2018 avec les perspectives de l'année nouvelle. Nos invités, nos correspondants et partenaires aux quatre coins de la planète seront au rendez-vous. Surprise, surprise, nous recevrons avec plaisir un nouveau correspondant en direct de Port-au-Prince en Haïti. Qui est-il? Un jeune homme très engagé dans sa communauté et dans le domaine du journalisme. Soyez des nôtres, dimanche prochain. Et si vous désirez, vous souhaitez partager votre bilan, votre mot préféré, votre expression préférée de la langue française, envoyez un petit message avant le 23 décembre. Nous avons des cadeaux aussi hein, pour les participants. popourri@cut.fm. Et enfin, découvrez les bons plans de nos partenaires fin d'année et début 2019. Toute l'équipe de Popourri Show vous remercie de votre contribution et de votre fidélité. De très joyeuses fêtes à tous.
tout le monde. Et oui, je veux ici saluer, avant d'applaudir nos invités qui sont ici, d'ailleurs, c'est salle comble hein, à Hart House aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, ne venez pas nous voir, il n'y a pas de stationnement, c'est incroyable, mais nous sommes heureux de recevoir tant d'étudiants, tant de familles, tant de parents, tant de touristes qui sont dans l'enceinte de Hart House aujourd'hui. Quelle soirée mémorable, hein, cher capitaine, agrémentée de fou rires, de réflexions, de paella chez ce couple dans Leslieville, des auditeurs devenus amis et grands donateurs de notre émission de la radio. Un grand merci. Mesdames, messieurs, ce sont des francophiles de 18 à 65 ans qui sont passionnés par la francophonie, mais qui sont méconnus par les franco-ontariens. Que pouvons-nous faire pour créer des ponts, voilà, jeter des passerelles, j'étais pour dire, entre ces francophiles, ces gens qui ne sont pas dans le milieu, le giron des franco-ontariens? Que pouvons-nous faire pour aller leur tendre la main, les inviter à être de la danse, de la francophonie? Très belle danse. Thank you so much. It was so much fun. Jennifer et toute sa famille, hein? Winnie, Lee, hey, Rob, thank you so much. Et je sais qu'il nous écoute à chaque dimanche. Il se réveille avec Popourri Show. Rob, merci, merci mille fois. J'ai eu un moment inoubliable, mémorable. On va se voir très prochainement. Les buzz de nos médias partenaires sur la scène internationale à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre dernier, RFI a recueilli plusieurs témoignages de défenseurs des droits humains qui illustrent par leur combat au quotidien égalité en droit, droit à la vie, droit au travail, détention arbitraire, droit de circuler ou droit à la nationalité. De l'Ouganda au Kirghizistan, des Philippines à la Grèce, au Bangladesh ou à la Birmanie, des femmes, des hommes se battent au quotidien pour faire respecter ces droits et dénoncer leurs violations. Bravo à RFI. La Côte d'Ivoire reste suspendue au sort de Laurent Gbagbo et l'ancien président ainsi que l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blié-Goudé attendent toujours la décision des juges de la chambre préliminaire de la CPI sur la question de leur libération provisoire. La réponse de la Cour est toujours en suspens. Les journaux ivoiriens relatent la folle journée d'attente de vendredi. Allez sur le site de RFI pour tout savoir. Les élections en République démocratique du Congo prévues le 23 décembre à la veille de Noël sont suivies de près par la communauté internationale et par l'équipe de RFI. Pendant ces 2h30, Jean-Pierre Bemba et Moïse Kadoumbi ont passé en revue cette semaine les entraves à la liberté de manifester et de se réunir que rencontrent le candidat Martin Fayoulou et ses partisans. En Tunisie, des gilets rouges, et oui, font leur apparition inspirée par les gilets jaunes français. Une première manifestation est prévue lundi, donc demain, 17 décembre, à Kasserine, où l'un des fondateurs du mouvement vient d'être arrêté. Comme en France, ces gilets rouges protestent contre la flambée des prix et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En France, acte 5 des gilets jaunes. Selon Radio-Canada, il y avait hier en France plus de policiers que de gilets jaunes. Et de hashtag ONFR, on apprenait que des gilets jaunes sont bel et bien présents à Toronto. Et une manifestation devait avoir lieu devant Queen's Park, l'hôtel du gouvernement de l'Ontario, hier. Mouvement repris par des groupes anti-immigration et contre le nouveau pacte pour les migrations signé récemment au Maroc. À Montréal, c'était plutôt une discussion citoyenne. Pancartes, graffitis, vidéos, déclarations sur les réseaux sociaux accusent les Juifs de manipuler le président Macron pour affamer le peuple, ont fait leur apparition dans le sillage du mouvement de contestation qui secoue la France, estime un journaliste israélien du journal Courrier International. Enfin, selon plusieurs médias et réseaux sociaux en France, des messages complotistes circulent librement, mettant en danger la démocratie et la paix sociale. Et que pense notre correspondant torontois, Marc-André Cormier, conseiller consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, vers 12h35 aujourd'hui?
En Haïti, le cycle d'assassinats de policiers ne s'arrête pas. Watson Pierre est le nom d'une nouvelle victime dans les rangs de la police. Il a été abattu par des individus non identifiés dans la nuit du 12 décembre à Santo, en périphérie de la capitale. Et après 2 ans de pouvoir, le président Jovenel Moïse présente officiellement le programme social de son administration. Vaut mieux tard que jamais. Cela s'est fait le 12 décembre en présence de hauts dignitaires de l'État et des membres du corps diplomatique. Et en dernière heure, nous apprenons que le gouvernement haïtien subventionnerait les denrées alimentaires des ouvriers. Et bientôt, Obed Lamy, nouveau collaborateur, journaliste, sera en direct des nôtres pour nous brosser le bilan Haïti 2018, dimanche prochain. En Ontario, le bulldozer du gouvernement Ford continue à écraser les plus vulnérables. En effet, le gouvernement provincial a annoncé en catimini vendredi soir que le budget des programmes d'éducation avait été amputé de 25 millions de dollars pour l'année scolaire 2018-2019. Le budget des programmes d'éducation chapeautés par la catégorie « Autres programmes d'enseignement » a été réduit de 425 millions de dollars l'an dernier à 400 millions cette année. Et cette semaine, on a été aussi témoin de la suppression des fonds pour les sages-femmes en Ontario et réduction considérable des fonds du Conseil des arts de l'Ontario. Et selon un article dans le Toronto Star, des milliers d'Ontariens n'arrivent même pas à payer leur loyer et doivent avoir recours à la banque d'alimentation. Et oui, ça se passe ici, chez nous, en Ontario. Fonction publique de l'Ontario, les compressions massives annoncées discrètement suscitent la crainte de milliers de fonctionnaires. Popo Richaud a reçu plusieurs témoignages émouvants de la part des fonctionnaires en poste. Pour combien de temps? On ne le sait pas. De hashtag ONFR, la crise linguistique dans laquelle Doug Ford a plongé l'Ontario a grandement teinté les discussions à l'Assemblée générale de l'Association des communautés francophones de l'Ontario. Et à Toronto, l'ACFO Toronto, l'organisme franco-torontois, est en chute libre ou en mode de combat, malgré des ressources financières faméliques et un désintéressement de francophones dans la région de Toronto. Qu'en pensez-vous de cette situation à l'ACFO Toronto? popourri@cut.fm. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, embauche une équipe juridique afin d'analyser l'option d'une révision judiciaire dans le dossier du financement de l'Université de l'Ontario français. Les avocats Ronald Caza, connu pour son implication au sein de SOS Montfort, et Mark Power ont été mandatés par l'AFO pour formuler un avis juridique. Ils se pencheront aussi sur la nouvelle législation qui retire l'indépendance du commissariat au service en français en le plaçant sous le bureau de l'Ombudsman. De hashtag ONFR toujours, la députée Amanda Simard est devenue l'un des symboles de la crise linguistique. Du jour au lendemain, elle a été propulsée à l'avant-scène et ses actions ont fait parler d'elle d'un océan à l'autre. Et oui, c'est le cas de le dire. On parle d'elle à l'île Maurice, en Madagascar et en Bretagne, s'il vous plaît. Alors que la poussière retombe tranquillement, elle lève le voile sur certains des jours les plus sombres de sa jeune carrière politique. À lire absolument sur le site hashtag ONFR. Toronto, Haïti, le premier ministre haïtien Jean-Henri Séan a pris la parole cette semaine à Toronto alors qu'Haïti traverse une nouvelle période trouble marquée depuis quelques mois par une colère populaire. Devant près de 200 leaders de la ville reine, il a tenté de convaincre les investisseurs canadiens de choisir son pays qui est sur la voie d'une économie plus juste. C'est lui qui le dit. Il reste que la visite à Toronto du premier ministre haïtien s'inscrit dans un contexte très particulier. Jean-Henri Séan a été nommé le 5 août dernier par le président Jovenel Moïse dans un climat politique très tendu. Peut-on réconcilier culture et Première Nation? Eh oui, après avoir fait l'objet d'une grande controverse l'été dernier, la pièce de Robert Lepage, rebaptisée Kanata épisode 1, la controverse, a finalement été présentée en grande première samedi par le Théâtre du Soleil à Paris. La représentation qui a fait salle comble a grandement ému les 300 spectateurs présents. Et oui, le 10 décembre dernier, madame, monsieur, c'était le grand rendez-vous avec la paix. dans la capitale norvégienne. Comme chaque année, Oslo vit au rythme des différents événements autour du prix Nobel de la paix. Et le prix Nobel de la paix 2018 a été remis au docteur Denis Mukwege et Nadia Murad, tous deux leaders dans la sensibilisation aux violences sexuelles dans les conflits. Les conflits armés, je parle. Et oui, dans un monde où la haine, les fausses nouvelles, les rumeurs gagnent du terrain, cela fait du bien, n'est-ce pas, d'apprendre qu'il y a encore des hommes, des femmes qui s'engagent pour sauver la vie des autres, même si cela peut mettre leur vie en danger. 850 Congolais ont fait le déplacement vers Oslo afin de commémorer le docteur Mukwege. À Kinshasa, des écrans géants installés au rond-point Victoire, à Casa Voodoo, à l'UPN et Kitambo Magasin, afin d'honorer celui qui non seulement traite, mais redonne espoir aux femmes. Initiateur de la fondation Panzi dans le sud de Kivu, la vie de ce gynécologue congolais est en danger partout où il va. Et oui, en octobre 1915, il a échappé à un assassinat devant chez lui car il soigne des femmes victimes des viols et en parle haut et fort à la communauté internationale. Depuis, il vit dans l'enceinte de l'hôpital où il traite les victimes. Il s'agit des actes qui se font en présence des enfants et toute la famille, pour créer un traumatisme dans les communautés qui vivent près des exploitations minières. Dans l'exercice de son métier, le docteur Mukwege et son équipe ont soigné, tenez-vous bien, plus de 50 000 femmes, la plupart victimes des pires violences sexuelles. Il en profite pour faire un plaidoyer au monde et les dirigeants de son pays qui mène la République démocratique du Congo dans un chaos sans fin. Reportage de France 24.
Et quand l'Europe célèbre le Congolais Denis Mukwege à Oslo, les deux Nobel de la paix, le docteur Mukwege et Nadia Murad, ont reçu leur prix en Norvège. Un prix au nom du peuple congolais, a déclaré le docteur. Le gynécologue qui a consacré sa vie aux femmes victimes de violences sexuelles a déclaré la guerre contre l'indifférence. Il s'est livré un plaidoyer pour son pays. Un discours très fort et très applaudi, on l'écoute.
Le peuple attend d'explorer les chemins d'une paix durable. Cette paix passe par les principes d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.reflet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5 is the only community station left on the FM dial in Toronto. Thanks to our generous supporters, we continue to be the sound of your city. Don't worry if you haven't donated yet. There's still time to qualify for the round-trip ticket for two to Reykjavik, Iceland. You have until December 31st. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Sí, Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Et oui, soyez parmi nos invités VIP du temps des fêtes, du 23 au 30 décembre 2018, un rendez-vous à ne pas marquer. Et oui, parmi nos invités, des nouvelles voix de Haïti, de l'Allemagne, du continent africain, de l'Europe, de Montréal. Et oui, quels sont les succès des chansons du monde de la francophonie en 2018? Quelles sont les personnalités francophones en Ontario, au Canada et dans le monde? Quels sont vos coups de cœur, vos coups de gueule en 2018, vos mots préférés, vos expressions préférées? À la veille du nouvel an, la nostalgie s'entremêle, la fébrilité du renouveau qu'inspire le 1er janvier 2019. Soyez de la fête, 23-30 décembre, le tour du monde des correspondants. Soyez parmi nos invités VIP. Appelez-nous immédiatement à Potpourri ou écrivez-nous, si vous préférez, potpourri@cut.fm avant le 22 décembre, bien sûr. Et toute l'équipe de la radio vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonne et heureuse année.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Économiser 3 piastres.
Ça, c'est comme le prix de 3 bières.
Le gouvernement provincial a décidé de couper d'une shot le projet de l'Université de l'Ontario français et notre commissariat au service en français.
On en a une, l'Université franco-ontarienne?
Non, pas encore, mais ça s'en venait. À Toronto en 2020.
Pourquoi à Toronto? Les francophones sont dans le nord puis dans l'est.
Oui, mais ça va changer. Le centre-sud-ouest de l'Ontario a la communauté francophone qui grossit le plus vite.
Puis les programmes universitaires à Toronto en français, c'est comme les jokes dans cette capsule-ci.
Il y en a pas beaucoup.
Puis 75% des jeunes franco du sud suivent leurs études postsecondaires en anglais.
Ça, c'est tous des francophones qu'on perd.
Puis au nombre qu'on est...
C'est pour ça que c'est grave. Bon, le commissariat au service en français à Star, qu'est-ce que c'est ça?
Bon, premièrement, Doug Ford, il n'y a pas comme... coupé le commissaire.
Non, il a pas coupé les services en français non plus.
Ben, pas encore.
Mais il a coupé la gang qui s'occupait de protéger les services en français offerts par le gouvernement.
Dans les hôpitaux.
Le service Ontario.
LCBO. Moi, j'achète toujours ma simule
en face. Je suis peut-être pas faite pour vivre à Auville, mais je sais pas parce que je suis pas encore là. Parce que moi, le monde, je les trouve débiles. Mais quand t'es quatre sommes de bête, ouais, pis que c'est à ton tour de traverser, moi, je m'en fous du code civil. Difficile de faire le changement, de partir en appartement. La vie dans le bois, c'est le confort. Je veux rester proche de la verge d'or. Quand j'étais du cul, le cœur battant, je vois dehors pour passer le temps. Je tirais du gun pour m'amuser, puis je mettais des cages à mener au harpon dans la guerre. tirer de l'arc dans une chaudière. Passer l'été à faire du bois, faut chauffer le poêle pendant l'hiver. La nuit tombée tout nu dans le lac, il fallait pas voir de lumière. Tout d'un coup, ça joue contre nous autres et qu'on voit les voiles à ma mère. J'suis peut-être pas fait pour vivre en ville.
Ah oui, les Rat Swamp, un groupe franco-ontarien qui a composé d'ailleurs une très belle chanson anti-Doug Ford, anti-Ford Nation. Bravo, il y a plusieurs artistes d'ailleurs du Canada français qui ont pris le flambeau comme ça, à travers leurs chansons, à travers leurs plumes. Ces poètes, hein. On a une grande reconnaissance envers ces poètes franco-ontariens qui ont aussi composé de très très belles poésies. De résistance, la lutte continue, madame, monsieur. Et rapidement, je vous rappelle, jusqu'au 23 décembre, offrez un cadeau symphonique. L'Orchestre Symphonique de Toronto fait le bonheur des mélomanes amateurs comme avertis, quel que soit leur budget. Découvrez les rendez-vous les plus prestigieux, spectacles musicaux pour tous les âges et tous les goûts du mois de décembre au Roy Thomson Hall. Des concerts et billets en ligne, allez sur le site www.tso.ca. Et je vous rappelle que hier, c'était le concert bénéfice de la saison des fêtes de l'ensemble à vocal Les Voix du Cœur. Et on a eu beaucoup, beaucoup de succès. Bravo. Je vous rappelle, dans un instant, nous allons parler de ce nouveau livre, Digestion, anaérobie. Des eaux usées, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est aux éditions universitaires européennes. Vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Nous recevrons le docteur, l'ingénieur Youssouf Kalogo dans un instant. Et le 23 décembre, des coups de cœur de l'année 2018, comme je l'ai annoncé, soyez de la fête. Partagez vos événements de fin d'année ou de début 2019. Le 16 janvier, nous allons recevoir une invitée de marque, le professeur Nathalie Auger. Elle est professeure des universités en sciences du langage, linguistique et didactique à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Et elle donne une conférence d'ailleurs au CREFO, c'est le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, qui vous invite à la conférence « Questions plurilingues à l'école en France » présentée par professeur Nathalie Auger, et elle sera des nôtres le 6 janvier à l'antenne en direct. Et le 7 janvier, le club Richelieu de Toronto vous invite à son premier souper conférence de l'année « La santé mentale des enfants et des jeunes », une question d'importance durant cette présentation. Madame Micheline Rabé, gestionnaire des services cliniques en travail social et en santé mentale au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Elle démystifiera, entre autres, le concept de santé mentale. Et tout ça se passe au Restaurante Boccaccio, 901 avenue Lawrence West à Toronto. Les places sont limitées le 16 janvier. Vous pouvez envoyer un message à info@richelieutoronto.ca. Et puis, Ciné Franco nous donne rendez-vous, même si sa fondatrice est dans le sud. Festival du 19 février au 9 mars, Ciné Franco Jeunesse, à ne pas rater, madame, monsieur. Et allez sur le site www.cinéfranco.com. Festival Trade Union Jeunesse pour avoir tous les détails. Un grand merci à Ciné Franco.
Fréquence Terre.
Bonjour à tous. Ben Kramer aujourd'hui pour ce Fréquence Terre consacré au recyclage des pneus usagés.
Lancement d'un tout nouveau livre, Digestion anaérobie des eaux usées. Dimensionnement des réacteurs, production et valorisation énergétique du biogaz. Un nouvel ouvrage consacré principalement aux réacteurs de traitement des eaux usées, domestiques et industrielles. Un livre qui vise avant tout à aider les ingénieurs à dimensionner les réacteurs et de résoudre les problèmes auxquels les réacteurs sont parfois confrontés au cours de leur fonctionnement. Langage un peu technique, mais aujourd'hui nous allons essayer de décortiquer ce livre qui est devant moi. C'est tout un livre, hein, regardez-moi, ça pèse combien de tonnes? Avec son auteur, Dr. Youssouf Kalogo, qui est ingénieur, auteur, conseiller pour les gouvernements et candidat déchu des dernières élections scolaires à Toronto. Il siège aussi au conseil d'administration du Centre francophone de Toronto. Et cela nous fait plaisir, madame, monsieur, de l'accueillir. Je pense qu'il est quelque part. Voilà. Ah, bonjour, docteur Youssouf Kalogo, comment allez-vous?
Bonjour, Eric, je vais très bien, merci. Et toi, comment vas-tu?
Ah ben, nous sommes dans la frénésie, les préparations. Vous savez, monter une émission avec les décalages horaires, avec des correspondants sur les 5 continents, c'est pas facile, hein? C'est un peu compliqué, disons.
Tout à fait.
Oui. Mais moi, en lisant ce livre, d'ailleurs qui est très technique, mais en même temps, je pense que c'est tellement important de comprendre les rouages des eaux usées. C'est pour cette raison qu'on a voulu faire partie de vos partenaires pour le lancement, parce que c'est très rare qu'on entend parler ce langage et ces thèmes dans nos médias, et je pense qu'il faut décortiquer tout ça et rendre le langage très simple au niveau de monsieur, madame, tout le monde, afin de digérer justement le langage de ce livre. Ah, vous savez, j'aime jongler avec les mots, je m'en excuse.
Tout à fait, je suis très très ouvert à utiliser un langage très simple pour expliquer ce procédé très important de traitement des eaux.
Oui. Alors, vous avez des études de cas. Je rappelle aux gens que c'est aux éditions Université européenne, publiées en novembre, donc c'est très récent. Parlez-nous un petit peu, justement, le but de cette recherche. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous avez un parcours quand même très intéressant. Vous êtes dans le domaine de l'ingénierie, vous avez été conseiller, vous avez même été travaillé un peu au gouvernement de l'Ontario pendant quelques temps.
Ah oui, tout à fait. J'ai un parcours qui part depuis la Belgique, en venant au Canada et en passant brièvement en Afrique comme conseiller technique auprès du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.
Mm-hmm. Et justement, parlez-nous un peu le but de cet ouvrage.
En fait, j'ai déjà participé, il faut le préciser, à la rédaction de 3 ouvrages par le passé, dont un a été publié chez Lavoisier et 2 chez Iwa Publishing. Avec des auteurs très respectés comme René Moleta en France et Letenga, Gadze Letenga en Hollande, qui sont maintenant à la retraite. Après avoir vraiment appris auprès de ces auteurs chevronnés, de grands professeurs, il m'est paru important de produire un ouvrage seul, afin de leur montrer que leurs élèves avaient suffisamment appris. Maintenant, quant au but réel de cet ouvrage, dans mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler pendant longtemps sur la digestion anaérobie. J'ai noté un certain nombre de problèmes. J'ai également constaté qu'il y avait des ouvrages sur le marché qui ne rentraient pas vraiment en profondeur dans les explications des phénomènes, notamment comment dimensionner de façon appropriée ces réacteurs-là, comment les gérer au cours de leur fonctionnement, afin que ça puisse donner les résultats qu'on espérait. Mmh. C'est un procédé très important qui utilise en fait des bactéries. Mmh. Okay, 3 populations de bactéries qui travaillent ensemble à la chaîne. Okay, si vous vous souvenez un peu du principe du travail à la chaîne de Henry Ford, c'est exactement le même. Et en bout de chaîne, ces bactéries-là produisent du méthane. Mmh. Donc, le méthane qui est de l'énergie, qui peut être utilisé pour produire de l'électricité, qui peut être pour produire de la chaleur afin de chauffer les maisons, qui peut être utilisé même pour faire fonctionner des véhicules. Si vous partez dans certains pays nordiques en Europe, il y a tout un programme dans certains pays où on utilise le biogaz pour faire fonctionner des bus.
Alors, des eaux usées, c'est bien des effluents liquides, des eaux polluées, il faut le dire, qu'on parle, n'est-ce pas?
Tout à fait. Il s'agit d'eau polluée qui sort de nos maisons, de nos salles de bain, de nos toilettes, de nos cuisines, et qui se retrouve dans une installation parce qu'il faut traiter ces eaux-là avant de les rejeter à la rivière pour éviter que nos rivières soient polluées, pour éviter que les poissons ne puissent en souffrir.
Alors ici en Ontario, à Toronto, est-ce qu'il y a des rivières très proches de ma maison? Je n'ai pas vu de poissons non plus dans les rivières près de chez moi. Où est-ce que ces eaux de Toronto, de ma maison de Toronto, vont?
Ben, ça dépend de là où vous habitez à Toronto. Vous avez différentes stations d'épuration à Toronto. Oui. Hein. Vous avez la station auprès de... En allant à downtown, là, la zone qu'on appelle les beaches, oui. Vous avez la grande station d'épuration de Toronto qui est là-bas. À l'est, vous avez au niveau de Highland Creek.
C'est pas très loin de Woodbine et Lakeshore, dans ces coins-là.
C'est exact. Mm-hmm. Mais le procédé qui est utilisé à cette station-là n'est pas un procédé anaérobie, mm-hmm. c'est un procédé aérobie qui utilise en fait de l'énergie pour apporter de l'oxygène aux bactéries. Le livre que j'ai produit, c'est le procédé inverse, qui n'utilise pas d'énergie, qui n'utilise pas de l'oxygène, donc vous n'utilisez pas d'énergie pour apporter l'oxygène, ce qui est déjà un grand pas. Ça permet de réduire alors la consommation d'énergie, de contribuer en fait à maintenir le climat, on parle de COP24 là,
oui.
de maîtriser le réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant dans le procédé, il n'utilise pas l'énergie, mais il produit de l'énergie. Cette énergie que vous pouvez utiliser pour produire de l'électricité ou faire du chauffage.
Vous savez, c'est tellement important parce qu'on voit qu'il y a un intérêt de la part des milliers de citoyens à travers la planète qui militent maintenant contre le réchauffement climatique. Mais souvent, les gens ne connaissent pas ou connaissent très mal, et puis on ne peut pas les blâmer parce qu'ils ne sont pas des experts comme vous, ils ne sont pas tous des ingénieurs. Ils ne connaissent pas les effets négatifs du réchauffement climatique et toute la pollution aussi, hein, dont il faut toujours en parler. Justement, nous avons reçu beaucoup de réactions de la part des auditeurs en sachant que vous étiez pour être des nôtres aujourd'hui. Une dame qui me dit comment l'eau arrive au robinet.
Ah oui, ça c'est une très bonne question. Comment l'eau arrive au robinet? Ben, vous avez des stations de production d'eau potable qui fonctionnent soit avec des eaux souterraines, c'est-à-dire qu'on pompe à partir du sol, mm-hmm. Ou bien vous avez des stations qui produisent de l'eau potable à partir des eaux de surface, qui sont des eaux, des rivières, des lacs, etc. Donc, cette eau, elle est produite, elle atteint une certaine qualité vraiment qui ne met pas en danger la santé des populations. Ensuite, elle est transportée dans ce qu'on appelle des conduites, ok, jusqu'à à un château d'eau. Au niveau de Toronto, vous avez certainement remarqué les châteaux d'eau de la ville de Toronto, là, en blanc et bleu, si je ne me trompe.
Oui, oui.
Et à partir de ces châteaux d'eau, là, alors, vous avez l'approvisionnement des ménages par gravité.
Et je pense que c'est tellement important de savoir aussi que l'eau est surveillée. Il y a des experts, il y a tout un mécanisme pour s'assurer. Je ne sais pas si c'est la ville de Toronto ou le gouvernement de l'Ontario qui s'en occupe pour voir la qualité de l'eau qu'on consomme, n'est-ce pas?
Ah oui, tout le travail d'ingénierie qu'on fait au niveau de l'eau est évidemment réglementé par un certain nombre de lois, de règlements, de politiques. Et il y a un contrôle systématique qui se fait pour s'assurer que la vie des populations n'est pas en danger.
Mais malheureusement, dans certains pays en voie de développement, on voit qu'il y a des gens qui peuvent attraper toutes sortes de bactéries et des maladies, hein, parce que l'eau n'est pas justement suffisamment surveillée et réglementée.
Tout à fait, c'est malheureux. Il y a dans certains pays un problème de moyens, il y a un problème structurel, il y a un problème également de qualification, d'experts. Et je me souviens au début de ma carrière, j'avais travaillé sur un projet qui a consisté à mettre au point une station de traitement pilote que vous pliez, vous remballez, vous prenez dans un avion direction à Goma, mm-hmm. Où il y avait à l'époque des problèmes politiques. Arrivé sur place, vous dépliez la station, la rivière qui est à côté, vous pompez l'eau, vous la traitez à un niveau de qualité qui ne met pas en danger la santé des populations.
Je rappelle, madame, monsieur, mon invité aujourd'hui fait le lancement de son dernier livre, dernier ouvrage très intéressant, Dr. Youssouf Kalogo, qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario. Il est vice-président du COPADEN. Qu'est-ce que c'est, le COPADEN?
Ben, COPADEN, c'est une organisation à but non lucratif qui œuvre à assister justement les pays qui n'ont pas suffisamment de moyens, notamment les pays africains, à pouvoir monter des projets structurants bancables pour aller chercher des fonds au niveau des Nations Unies pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Vous le savez certainement, au niveau des Nations Unies, il y a pas mal de moyens, de budgets qui sont disponibles pour la protection de l'environnement. Malheureusement, dans certains pays africains, ils n'ont pas toujours l'expertise pour pouvoir monter les projets, et notamment, ces projets-là doivent être écrits en anglais. C'est l'avantage de personnes comme moi, qui sommes ici à Toronto, qui s'expriment aussi bien en français qu'en anglais. Donc, aider ces pays-là à pouvoir monter ces projets qui sont bancables. Vous avez plusieurs millions de dollars disponibles à l'attention de ces pays. Malheureusement, ils ne vont pas chercher par faute d'experts.
Alors, il y a tout un chapitre dans votre livre consacré à la transformation du biogaz en énergie. Pouvez-vous en élaborer un peu?
Oui, en fait, comme je le précisais tout à l'heure, lorsque les bactéries ont fait leur travail, à la fin de la chaîne, vous avez la production d'un gaz, et ce gaz qu'on appelle le biogaz, parce qu'il est produit de façon biologique. Mmh. Au sein de ce biogaz-là, vous avez ce qu'on appelle le méthane, ok? Et vous avez également du gaz carbonique. Ce qui nous intéresse dans ce gaz-là, c'est le méthane. Le méthane, il a une valeur énergétique très élevée. Rappelez-vous le gaz naturel. Le gaz naturel, il comprend du méthane à un pourcentage d'à peu près 85%. Dans le biogaz, vous avez entre 60 et 70%. Donc, si vous arrivez à nettoyer un peu le biogaz pour enlever ce qui ne vous intéresse pas, c'est-à-dire le gaz carbonique, vous augmentez la teneur, la concentration en méthane. Et le biogaz se comporte exactement comme le gaz naturel se comporterait. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, vous pouvez l'utiliser pour chauffer de l'eau, vous pouvez le transformer pour produire de l'électricité. Alors, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un moteur à biogaz, okay, dans lequel vous allez faire passer le biogaz et il va se transformer en électricité.
J'entends déjà des voix, des questions qui me disent « Mais monsieur, où est-ce qu'on achète ce moteur ?» Alors, à la page 369, vous faites mention de l'expérience nord-américaine sur la promotion du biogaz comme source d'énergie. C'est un chapitre que j'aime parce que ça nous rapproche un peu de nos réalités en Amérique du Nord, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Il y a eu des expériences très intéressantes en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Il y a des années avec le U.S. Environmental Protection Agency. Mais l'expérience la plus fabuleuse en matière d'utilisation de biogaz, c'est en Suède, à la ville de Linköping, si je prononce bien, où vous avez tout un programme pour faire fonctionner le bus au biogaz. C'est merveilleux. C'est incroyable.
C'est un livre, je dirais pas dédié à monsieur, madame, tout le monde, mais quand même, il y a des passages assez simples. Il y a d'ailleurs des tableaux, des dessins, et vous avez écrit une très belle dédicace à l'équipe et à moi. Merci infiniment. Je pense que votre mère et votre père sont très fiers de vous, n'est-ce pas?
Ben, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde-là, mais je tenais leur dit que leur petit Youssouf est devenu un homme aujourd'hui, oui. Et que grâce à leurs efforts de m'avoir conduit à l'école, eux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire, et que leur enfant aujourd'hui est parvenu à écrire. Il a écrit des livres et je tenais à leur dire ça.
Vous savez, vous faites honneur à la communauté francophone et c'est là qu'on voit qu'il y a des richesses, il y a des talents cachés. On devrait vous entendre un peu plus souvent dans nos médias. On devrait vous voir un peu plus souvent parce que vous êtes un homme engagé dans l'action, vous ne restez pas dans votre tour d'ivoire comme font malheureusement beaucoup de fonctionnaires ou encore des ingénieurs ou des hommes, des femmes de votre niveau. D'ailleurs, vous voyez un peu cette démonstration de la colère du peuple, hein. Partout dans des élections, on le voit, les gens veulent avoir des comptes, veulent avoir un climat sain, un climat propre. On sent qu'il y a de plus en plus un intérêt de demander des comptes à nos élus. Et je pense que des hommes comme vous, des femmes comme vous, à votre niveau, vous apportez justement un éclairage sur les dimensions à suivre et à prendre pour rendre notre planète un peu plus respirable, plus vivable. Moi, je suis tellement heureux de vous avoir. Et d'ailleurs, j'espère qu'en 2019, vous serez des nôtres pour, de temps en temps, alimenter nos débats sur les questions de l'environnement.
Ben, je reste tout à fait ouvert, Eric. Ce sera un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour parler d'environnement et apporter ma contribution à certains éclairages si c'est nécessaire.
Et d'ailleurs, les gens peuvent avoir une copie de votre livre aux éditions universitaires européennes, mais aussi, je l'ai vu, c'est sur Amazon.
Oui, le livre est actuellement sur Amazon. Il coûte 98 euros, 90 sous. Je pense que c'était un très bon ouvrage avec beaucoup d'informations, beaucoup de données. Pour ceux qui sont dans le domaine technique, beaucoup de modélisation. Ben, le modèle, c'est des relations mathématiques simples qui vous permettent de calculer ces ouvrages très importants de génie civil.
Digestion anaérobie des eaux usées du professeur et ingénieur Youssouf Kalogo qui réside à Toronto, madame, monsieur. Hein? Oui, c'est une perle. À Toronto, à découvrir. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes à vous, votre famille et toute l'équipe, la bande du Centre francophone de Toronto, vous siégez. Est-ce que vous avez des vœux à passer à nos auditeurs?
Ben, effectivement, merci de me donner cette opportunité-là. Je tiens à souhaiter une très belle fête de Noël, une très belle fête de fin d'année à tous les Torontois, à tous les francophones de l'Ontario et à tous les francophones du Canada. Merci Eric de m'avoir donné l'opportunité de cette émission-là. Je souhaite à toi et à toute l'équipe de la radio une très 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 belle fête de fin d'année et au plaisir de vous retrouver à la nouvelle année.
Merci. Voilà. Tout le public vous applaudit. Au revoir et à la prochaine.
Au revoir Eric.
Et oui, madame, monsieur, encore une fois, allez sur Amazon pour avoir acheté votre livre. Un beau cadeau d'ailleurs de Noël, pourquoi pas. Digestion anaérobie des eaux usées aux éditions universitaires européennes. Un livre très bien écrit du docteur Youssouf Kalogo, qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario. Il siège aussi au conseil d'administration du Centre francophone de Toronto. Les gilets jaunes vus de Toronto et de Suisse. Eh oui, nous avons reçu beaucoup de remarques. N'oubliez pas, nous allons avoir notre correspondant et homme engagé qui travaille et milite pour les Français qui sont ici à Toronto et au Manitoba. Alors, Monsieur Cormier nous attend vers 12h35 à ne pas rater Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Trying to decide where to escape the winter blues this year? Try Costa Rica. Whether it's nature, hanging at the beach, adventures, or fishing that you're looking for, you can't go wrong. Safe and peaceful Costa Rica is increasingly becoming the go-to destination for savvy travelers. While you're there, let Serenity Boutique Hotel on the Pacific Coast be your home base. Serene, calm, and close to many activities, it is the perfect refuge
after a busy day. Visit our website, SerenityHotelCostaRica.com, to book your room. That's SerenityHotelCostaRica.com.
CIUT 89.5 is the only community station left on the FM dial in Toronto. Thanks to our generous supporters, we continue to be the sound of your city. Don't worry if you haven't donated yet. There's still time to qualify for the round-trip ticket for two to Reykjavik, Iceland. You have until December 31st. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Et le journal, c'est avec Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et à la une, l'accord de Paris sur les rails avec une trentaine d'heures de retard. La COP24 pour le climat s'est achevée hier en Pologne. Pas d'effort collectif supplémentaire, mais un cadre pour appliquer le texte adopté à Paris il y a trois ans. Les premiers signes d'essoufflement pour le mouvement des Gilets jaunes en France. 66 000 personnes selon les chiffres officiels hier pour l'acte 5 contre 126 000 la semaine dernière. Dans l'actualité aussi, Jean-Pierre qui appelle à la confrontation avec le pouvoir en place au Gabon, un nouveau départ à la Maison Blanche américaine, l'austérité comme mot d'ordre pour le prochain budget au Mexique, et puis on terminera ce journal par un tour au salon des vins bio à Paris. Ce n'est pas la révolution.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali.
Il vous voit quand vous dormez. Il sent quand vous êtes éveillé. Il sait si vous avez été sage.
Arrête. Les enfants ne sont pas idiots. Ils savent comment ça marche.
Pardon, Père Noël.
Plus haut, Cupidon ! Allez, Thomas !
Teddy, regarde !
Passe-moi la caméra ! C'est le Père Noël !
En chair et en os. Une seule nuit par an.
Vous ressemblez pas au Père Noël.
Les panneaux de pub vous rajoutent 40 kilos. Noël est en danger.
On peut y arriver si on s'y met tous ensemble.
J'en ai vu des choses étranges dans ma vie, mais ça...
Attends de voir ce qui arrive ensuite.
Aïe, 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 aïe. Nicky, Nicky, toujours sexe.
Et oui, soyez parmi nos invités VIP du temps des fêtes. 23-30 décembre 2018, comme à chaque année, Popourri Show vous propose un tour du monde avec ses correspondants. Quels sont les succès des chansons du monde francophone en 2018? Quelles sont les personnalités francophones en Ontario, au Canada ou dans le monde? Quels sont vos coups de cœur, vos expressions, votre mot préféré en 2018? À la veille du nouvel an, la nostalgie s'entremêle à la fébrilité du renouveau qu'inspire le 1er janvier 2019. 23-30 décembre, le tour du monde des correspondants, une édition inédite avec DJ, invité surprise, des nouvelles voix d'Haïti, des Antilles françaises, de l'Europe, du Canada et du continent africain. Soyez des nôtres, le tour du monde des correspondants, 23-30 décembre. Toute l'équipe de la radio vous souhaite de très joyeuses fêtes. Papa Groove, toujours, toujours vivant, 85 ans, Manu Dibango.
Mama,
Mosoma, Maguila, Macosa. Chamane dina la makusa, diso miso wikidi, namu wenge mutele jombe kasa so. Yeah, obo so makusa na bos. Ati, mosoma makusa. Mama ko, mama sa, mama ko, ko.
Hey, 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 hey,
so ma ko sa. Mata so mo gidi mo.
Hey,
hey, hey, mama sa, mama ko sa.
Mama ko, mama
sa, mama ko, ko.
Hey, 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 hey,
so ma ko sa. Ay, ay, ay. Mo. Ma
cosa?
Ma cosa? Cosa.
avez remarqué que c'est très philosophique les paroles, hein. C'est formidable. Encore une fois. Yeah, yeah, yeah. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh.
Rappelle à ton souvenir.
Ai, maman, voilà le voile.
Adra bella cosa, ding-e-dong.
Ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
Et oui, le célèbre musicien, notre ami camerounais Manu Dibango, a soufflé ses 85 bougies cette semaine. Le précurseur de la musique africaine mondialisée, une carrière exceptionnelle, une discographie très riche, de nombreux pays visités, d'hommages en tout genre. Et nous remercions Radio France Internationale Musique pour cette édition spéciale. Et à TV5 Monde aussi, on a fait pas mal de montage et on a capté les réactions et Manu Dibango lui-même en personne. Manu Dibango, une vie de rencontre.
La musique, c'est un échange, en fait. Hein. Ce qui est important dans la musique, c'est les rencontres que tu peux avoir, comment l'autre y pense. C'est un échange d'idées, c'est des dialogues, c'est des conversations. C'est difficile de faire la musique tout seul. Il faut partager avec les gens. Alors plus ils viennent d'horizons différents, plus logiquement on s'auto-enrichit. Logiquement.
C'est ça, c'est-à-dire que vous leur apportez quelque chose, mais eux.
Eux aussi m'amènent quelque chose. La vision d'un Pete Bacardi ou d'un Passy ou d'un Herbie Hancock, c'est déjà des mondes différents. Et tu vas là-bas, Sly Dunbar, ou Shakespeare à la Jamaïque, c'est encore autre chose. Pacheco avec les Latinos, Fania All Stars, c'est encore une luxuriance extraordinaire. Et bon, il faut avoir la chance de pouvoir rencontrer tous ces gens. C'est une chance. Je suis un communicateur. Alors, c'est une chance de pouvoir communiquer et donc d'expliquer. Quand j'ai l'occasion de faire ce que vous avez dit là, il fut un temps où je faisais la télévision. Ça, et je recevais que des artistes d'ailleurs. Toutes ces émissions-là, c'était jusqu'au Claude Nougaro, enfin il faut remonter jusqu'à là quand même. Hein, on en a connu du monde. Alors c'est susciter des rencontres, que les gens voient que c'est possible de vivre ensemble, culturellement parlant, sans problème, à partir d'un certain. Voilà. Donc je suis un passeur plutôt.
Madame, Monsieur, émission spéciale sur CUT 89,5 FM, aujourd'hui appuyé de Radio France Internationale, à qui nous remercions pour cette consécration. Et oui, il faut bien le dire, on a consacré une journée spéciale au musicien le plus connu du Cameroun, je pense, Manu Dibango, que j'adore. Personnellement, je l'ai rencontré, un homme très simple. On a siégé ensemble sur plusieurs comités de sélection pour les musiques, les voix africaines. On avait tout un débat à l'époque, dans les années 90, à RFI, sur comment définit-on la musique francophone. Parce qu'un artiste africain qui chante un peu dans sa langue maternelle, ça passait pas à l'époque. Ah oui, ça a bien changé depuis, grâce à des artistes comme Manu Dibango et tant d'autres encore. Alors, 12 décembre, à ne pas rater, à chaque année, nous allons célébrer Manu Dibango. Et il était à RFI Musique, bien sûr, et TV5 Monde lui a rendu un vibrant hommage. Manu Dibango, Papa Groove, que voici, madame, monsieur.
Et donc ce matin, on va célébrer l'anniversaire. 60 ans de carrière de Manu Dibango.
De monsieur Emmanuel Djonge Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango. Manu Dibango, effectivement, il arrive en France. Il est né à Douala, au Cameroun. Et il arrive en France au tout début des années 50. Son papa l'envoie faire des études chez un instituteur français, dans la Sarthe. Un instituteur sévère, qui lui donne des cours de piano, qui le forme. Et puis un jour, il découvre le saxophone.
Et là, c'est la révélation de sa vie. Ce saxophone, il va en faire sa vie, il va en faire sa profession, il va le faire rayonner dans le monde entier, mais avec un son typiquement à lui. C'est vrai que Manu Dibango, bah, il vient d'Afrique, et il le dit avec beaucoup d'humour. À l'époque, un Africain, ça devait porter un boubou et jouer et taper sur un djembé. Lui, il va prendre ce saxophone et en faire quelque chose d'absolument magique. Les plus grands se sont inspirés, je mets inspiré avec des guillemets énormes de lui, Michael Jackson avec le Sol Makossa, Rihanna lui a emprunté quelques morceaux, alors, certains légalement, d'autres moins légalement. Il était à Surgère, tout près de La Rochelle, il y a quelques jours, grand festival de jazz.
Il doit mettre le feu.
Et vous savez quoi ? On y était, regardez. Manu, Papa Groove, Papa Africa, ce sont des surnoms que vous portez volontiers, que vous assumez volontiers.
Mais là, c'est Papi, man. J'ai augmenté de degré, je suis Papi, mais là.
Vous dites, on attend d'un Africain du djembé partout et des bambous.
C'est ça.
Vous en avez marre de cette image complètement cliché de l'Afrique?
Ben oui, c'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, le saxophone, le piano, c'est plutôt les Noirs américains. Un Africain sans boubou, sans djembé, c'est pas un vrai Africain. Jusqu'au moment où les gens font la démarche quand même de venir vous écouter, qu'ils se rendent compte que finalement la musique, c'est la musique.
On peut pas survoler ses 60 ans de carrière sans parler de Sol Makossa. Et c'est vrai, Manu, que c'était une phase B au départ?
Exact. J'avais composé ce morceau au Cameroun et on répétait dans un quartier à Douala. Et puis à chaque fois que je faisais un jeu de mots, Mamako, Mamassa, les mômes qui écoutaient la répétition, ils rigolaient. Donc j'avais obtenu le fait de faire l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique de football en 72. Il y avait encore des vinyles de 45 tours. Donc, face A, l'hymne, face B, je me dis, tiens, au fait, pourquoi je ne ferais pas, je ne mettrais pas le morceau qui fait rigoler les enfants, là.
Et la première fois où vous avez écouté Michael Jackson, entre guillemets, piquer votre morceau, ça vous a fait quoi?
Ben, il a aimé aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé légalement. Il y en a d'autres qui l'ont pas, qui l'ont aimé pas légalement, mais lui est fier quand même. Quand même Michael Jackson, le plus grand. Et puis après tu fais travailler les avocats quoi. Les gens disent mais Manu vous vieillissez pas. Ah, j'ai dit mais moi j'ai pas les moyens de vieillir hein. Ça coûte cher, hein. Vous donnez les moyens de vieillir, demain je veux vieillir. Ça, c'est la blague.
Et au revoir.
Ah, celle-là, Manu, je vous l'emprunte légalement ou illégalement. J'ai pas les moyens de vieillir. Ça, c'est génial comme phrase. Bon, d'un mot, Fred, il a accompagné les plus grands.
Il a accompagné les plus grands et quelqu'un auquel on pense beaucoup puisqu'on va célébrer les 20 ans de sa disparition. Il s'est donné la mort le 13 août 1998. Je pense à Nino Ferrer qui a été un des premiers à repérer chez ce grand monsieur un grand talent. Surtout, n'ayez pas les moyens de vieillir. Continuez à jouer, Manu. Continuez. Merci beaucoup.
Merci, Fred.
Ça va ? Ça se passe où alors ?
Bon, ben moi je vais écouter.
Bonne fête, Manu Dibango, en direct de CUT 89,5 FM, Toronto, Canada. Et si on reprenait un peu cette chanson que nous adorons tous, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Toi, tu ne vieillis pas, toi, tu restes toujours. Le chanteur extraordinairement connu dans la communauté africaine, mais sur la scène mondiale. Allez, c'est quoi cette recette pour garder cette jeunesse, cette voix si jeune, si vivante, qui nous fait rêver tout au long de nos vies? Maladie d'amour, maladie de la jeunesse.
Qu'est-ce que je peux dire après, hein? Seulement parler d'amour. Une maladie qu'on est content d'avoir. Ça s'appelle Dolo Dolo. Amour, amour. Et oui, et on dit maladie d'amour. Maladie de la jeunesse. Si tu l'aimes. Reste tout près de moi, oui, maladie d'amour, maladie des amoureux, si tu n'aimes que moi.
Reste tout près de moi.
Mais oui, car l'amour est petit, c'est joli, mais quand il devient fort, alors, problème, n'est-ce pas? Allez, 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 allez. C'est aussi la vie,
car l'amour c'est la mort,
mais c'est aussi le paradis.
Toute l'équipe de la radio souhaite à Manu Dibango un très bon anniversaire.
Joyeux anniversaire Manu!
Joyeux anniversaire Manu Dibango, une édition spéciale en collaboration avec Radio France Internationale Musique. Popourri Show vous donne rendez-vous dans la dernière demi-heure avec un invité très spécial qui nous attend, Monsieur Marc-Albert Cormier. Gilet jaune, gilet bleu, gilet vert, gilet rouge en Tunisie. Eh oui, il y en a, ça existe.
Toronto.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
C'est
tibétain parce que mes parents ils ont visité le Tibet et donc ils m'ont appelé Tenzin.
Ouais, parce que t'as pas une tête de tibétain, toi. A priori.
Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien.
Pourquoi les Français n'aiment pas leurs élus ?
Il y a quelqu'un ?
Non, il n'y a personne.
Ah bon ?
Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique.
C'est une blague.
Moi, je suis socialiste.
Menteur.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Ah !
Pour ma part, je suis de gauche. Alors, à l'époque, j'étais pas de gauche.
Oh, je... Enfin bon, alors, admettons ce mensonge.
Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste.
Mais... je ne suis pas au Parti Socialiste.
Tu mens. Il ment.
Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier. Parce qu'il peut tout perdre, lui.
Oui, entrez.
Monsieur le directeur.
Mon chèque. N'y touchez pas. Au travail. Mon chèque.
Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui.
C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai.
Oui.
Ah,
parce que c'est notre projet.
Tais-toi.
Nique ta mère.
Mocheté. En plus, elle est mal élevée.
Et alors, voilà la burqa, là, c'est ça, ça.
Je suis à courir, moi, tu vas voir le burqa, là-bas. Hein ? Pédé !
T'as entendu, hein ? C'est ça, les Français.
Jeanne ! Au secours !
Qu'un voyou comme M. Mélenchon, moi, j'offre un débat à M. Mélenchon.
Là, vous
et je vais lui retirer son caleçon.
Du barème pour les revenus.
150 000 euros par.
Alors moi, il m'épate.
On s'adresse à. Pardon, monsieur le Premier ministre. Depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Le gel du point d'indice des fonctionnaires a été maintenu. La CSG va être augmentée avec pour conséquence que les retraités vont voir baisser leur pouvoir d'achat, notamment ceux qui ont une pension de plus de 1 200 euros. Surtout. Une annonce de votre gouvernement, vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 euros par mois le montant des allocations logement. Après les retraités, les fonctionnaires, les smicards, vous attaquez maintenant les plus pauvres.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre.
Alors moi, il met pas.
Gilets jaunes, gilets rouges, vu de Toronto et de Suisse. Comme beaucoup de Français, j'étais devant mon écran à 20h, monsieur Kader. C'était lundi soir pour écouter le président de la République répondre aux manifestations populaires des Gilets jaunes. Macron a parlé avec un ton empathique et ferme. J'ai pensé qu'il s'adressait aux Français comme on parle à une classe d'élèves, Schalter. Cependant, je ne vais pas m'attarder sur la forme. Les politiciens passent leur temps à soigner leur apparence et à travailler leur charisme. Macron est sans aucun doute un bon orateur. C'est là que le bât blesse. Son discours est plus qu'un exercice de style pour préserver la paix sociale, qu'un projet de réforme profonde pour sauver un pays à la dérive. C'est la première annonce. Nous passons en urgence économique et sociale. Décréter cet état d'urgence ne sert strictement à rien. Nous ne sommes pas davantage dans l'urgence qu'il y a 4 ans. La France doit se réformer depuis un bon moment. Décréter des mesures ineptes au nom ronflant pour se donner l'air grave ne marche qu'avec des crédules. Mais qu'en pense mon invité Marc-André Cormier, conseiller consulaire pour les provinces de l'Ontario et Manitoba au Canada, homme engagé dans la francophonie torontoise et canadienne. Passons en revue les cadeaux de notre Jupiter Noël en cette fin d'année 2018. Suppression de la taxe carbone, ça on le savait déjà.
augmentation du SMIC de 100 euros, défiscalisation des heures supplémentaires, défiscalisation des primes de fin d'année, annulation de la hausse de la CSG, mettre fin aux évasions fiscales des grandes entreprises, Amazon en tête. Une chose me choque, l'appareil d'État ne fait aucun effort. Il va certes percevoir moins d'entrées fiscales, surtout en annulant les hausses prévues ou en revenant de quelques années sur les taxes nouvellement créées. Mais il ne dit pas où il va couper pour compenser le manque à gagner. En gros, ce n'est pas une réforme, c'est du maquillage superficiel pour racheter l'ordre public. Mais pourquoi les Français n'aiment pas leurs politiciens, leurs présidents? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
En France, nous sommes au pays de la Révolution. Si tous les 5 ans, le peuple désigne un roi, c'est uniquement pour le plaisir de lui couper la tête. C'est toujours la même histoire. Un an après son élection, Hollande était déjà caricaturé sous les traits de Louis XVI. Quant à Carla Bruni, on l'a tellement comparée à Marie-Antoinette qu'elle expliquait sur la BBC que les Français confondent leur président avec un roi.
When someone is elected, something happens in France and they still think he's the king. So what they do after he's been elected is that they try to cut his head off.
10 ans plus tard, Macron subit le même sort que Carla Bruni. Aujourd'hui, c'est son tour d'être comparé à la reine décapitée.
Macron, c'est Marie-Antoinette au moment de la Révolution française. C'est quoi? C'est vous n'avez pas de pain? Eh bien, vous n'avez qu'à acheter de la brioche. Il dit quoi aux gens? Il dit, vous n'avez pas de quoi faire le plein de votre voiture? Eh bien, vous n'avez qu'en acheter une neuve.
Pauvre Macron. Voilà 40 ans que la droite et la gauche se succèdent au pouvoir sans avoir réglé ni le problème du chômage, ni le problème des banlieues, ni celui de la dette. Et pourtant, c'est à lui qu'on veut couper la tête.
Il a sa tête. Il n'a plus.
Cela dit, notre jeune monarque ne fait rien pour apaiser la colère du peuple. Alors que les gilets jaunes réclament du concret, il leur sert un grand discours.
On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant.
Alors qu'ils s'inquiètent pour leur fin de mois, il leur parle de la part du nucléaire dans le mix énergétique de la France en 2050.
C'est affligeant.
C'est comme si la tête du pays n'était plus reliée à son corps. D'ailleurs, les gilets jaunes ne réclament pas que la baisse des taxes. Ils veulent aussi créer une assemblée citoyenne. Faut dire que l'Assemblée nationale n'est plus très représentative. Alors que 40% des Français ont voté pour Le Pen ou Mélenchon en 2017, le Rassemblement national et la France insoumise ne disposent que de 4% des députés. Forcément, quand l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée, elle se manifeste dans la rue. Pour sauver sa tête, Macron doit absolument légitimer son pouvoir par une victoire aux européennes. Ça paraît mal parti, mais qui sait? S'il parvient à rallier Juppé et Cohn-Bendit, il élargira son électorat. Ces deux-là n'incarnent pas vraiment le nouveau monde, mais ça tombe bien, ce sont les retraités qui participent le plus aux élections.
Et oui, vous avez bien entendu. Qu'en pense notre invité? Est-ce que lui, il aime ses élus français? Est-ce qu'il aime son président, le président actuel? Est-ce qu'il est là, le conseiller des Français pour l'Ontario et le Manitoba? Monsieur Cormier, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Vous avez entendu les réactions des auditeurs, le petit montage de nos animateurs, de nos DJ. Réactions?
Réaction. Alors bon, je suis pas dans le parti du président, que ça soit clair. Je suis donc à l'UDI, c'est un parti qui a tendance à dire oui mais. Donc on a toujours des critiques positives ou des inflexions à donner à la politique gouvernementale. Mais vu cette situation, tout d'abord j'aimerais dire que on souffre en France d'une maladie, la maladie de l'obsession des révolutions et des révoltes. Et ça commence au niveau scolaire, on vous enseigne que toutes les grandes choses qui sont arrivées en France sont grâce à des révolutions. Donc la mythologie révolutionnaire rajoutée à la mythologie des grands hommes, ça fait un pays qui avance pas progressivement, mais par coup d'accélérateur, coup de frein. Coup d'accélérateur, coup de frein, et c'est pas une façon de fonctionner.
Il y a aussi cette façon de voir la France, on entend souvent des gens, y compris des politiciens, des élus français qui disent de la France d'en haut, la France d'en bas, et il y en a un ras-le-bol contre les élites, une certaine élite.
Donc, oui, alors attention au discours anti-élite, parce qu'il nous vient tout droit du populisme qui commence à prendre racine, bon, aux États-Unis bien entendu, Hongrie, Italie, etc. Donc oui, il y a une élite en France, ça on va pas le nier. Et on dit même que la France, quelque part, est une monarchie républicaine, quelque part.
Oui.
Mais est-ce que c'est l'élite le problème ? Non. Je pense que c'est essentiellement une question fiscale, une façon de taxer les gens. Et moi, j'avais même déclaré dans les médias sociaux que je m'attendais à une révolution chrétienne. Mais pas dans le sens que vous pouviez comprendre. Dans le sens Jean Chrétien. Mmh. grand prémisse du Canada, qui avec Paul Martin avait compris que la situation fiscale au Canada était absolument catastrophique dans les années 90. Et a entamé une série de réformes fiscales, mais aussi des réformes au niveau des dépenses, ce que la France n'a jamais véritablement fait. On a peur de réduire les dépenses en France. Et donc, on taxe, et on arrive à des situations où les dernières taxes qui ont été imposées par Macron, on les voyait tout de suite. Ce ne sont pas des taxes qui, apparaissent lorsque vous faites vos impôts. Non, vous les voyez tout de suite à la pompe, vous les voyez tout de suite à vos achats. Et je pense que c'est ça qui a cristallisé une situation saturée, et qui a fait que les gens qui ont vu le résultat immédiat de ces taxes, eh bien, se sont révoltés de manière quasi spontanée.
C'est très intéressant de parler avec vous parce que j'aime beaucoup avoir les points de vue des Français vivant à l'étranger, que ce
oui.
soit à Montréal, à Miami, à Québec et même en Europe, dans d'autres pays d'Europe, parce qu'ils voient la situation tout à fait autre.
On a vécu autre chose.
Voilà.
Alors, il paraît qu'il y aurait quelques Français qui soutiennent les gilets jaunes de l'étranger, mais bon, à mon avis, ils sont déjà arrivés la semaine dernière.
On a reçu des oui. coups de fil, des courriels,
oui.
les gens, y compris des Français à Toronto, à Montréal,
oui.
qui me disent, mais ils sont choqués. Comment parler contre les immigrants? Comment parler de certaines
oui.
politiques sociales dans un pays qui nous accueille, qui nous ouvre les bras grands ouverts? Et là, on est osé, en plus, on appelle à d'autres à manifester avec nous. Et d'où vient ce mouvement? Qui est à la tête de ce mouvement?
Alors, à l'étranger, je n'en sais rien. Mais je m'en dissocie totalement. Mais en France, le mouvement des Gilets jaunes, le problème, c'est qu'il est horizontal. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de tête du mouvement.
En effet.
Donc, tout le monde est rentré dans ce système, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc, vous avez des Gilets jaunes en France qui sont d'anciens électeurs du vieux Parti communiste français, qui aujourd'hui sont un peu perdus, qui sont plutôt France insoumise. Tout comme vous aurez des Marine Le Pen, enfin des rassemblements nationaux et tout ce que vous pouvez imaginer comme extrême droite. Et j'en veux quelque part à certains politiques français qui ont essayé de les caresser dans le sens du poil avant que ça leur explose à la figure.
Oui.
Le problème des Gilets jaunes, c'est que c'est pas un mouvement politique du tout, c'est un mouvement social. Pour un mouvement politique, il faut avoir des idées, il faut avoir une hiérarchie. Et nous sommes dans une espèce de rejet de la hiérarchie, hein, rejet des élites, rejet de la structure, rejet du travail sérieux. Et plutôt que de manifester comme ils le font, moi je les encourage fortement, ces gens-là, à s'immiscer dans les partis politiques, et apporter des idées pour qu'on ait un consensus ou une synthèse d'idées politiques, plutôt que cette espèce de cloubi-boulga qu'on a vu dans les médias, où on réclamait tout et rien.
Et maintenant, il y a des petits un peu partout, il y a des gilets rouges en Tunisie. Hein.
Oui, comme en France, il y a eu une époque les bonnets rouges. Bon, écoutez, ça va, c'est la saveur de la semaine.
Écoutez, il y a quand même, moi j'aime beaucoup analyser le profond de ce mal. Ça fait depuis 1980, 82, 83, et quand j'ai eu ce bonheur d'aller suivre un stage à RFI, de voyager un peu dans différentes provinces, parce qu'il ne faut pas rester toujours à Paris, hein, il faut toujours aller en province aussi pour savoir, avoir le pouls du peuple français. Et je sentais ce mal qui existait au niveau des immigrants, de l'emploi. Il y a aussi tous ces anciens présidents élus français qui quand même sont très bien conditionnés malgré tout par les deniers publics, il faut bien le dire. Ils ont plusieurs voitures, des chauffeurs, des résidences privées payées par l'État. Et donc les gens ont de la difficulté à digérer tout ça quand ils regardent un peu le salaire qu'ils reçoivent à la fin de l'année. Et même les 100 euros là, pour le SMIC, il y en a beaucoup qui disent « mais c'est de la foutaise, on ne peut pas avoir grand-chose ». Alors j'ai fait une recherche depuis 4 semaines de voir cet élan des gilets jaunes. Je suis allé tomber sur un Mr. Nobody, un leader d'opinion, interrogé par France Info. C'est Étienne Chouard, 62 ans, et il reconnaît volontiers, il s'est éveillé politiquement en 2005, et à cette époque, ce professeur discret, auteur de 2 manuels informatiques, et qui votait pour le Parti Socialiste sans grande conviction, publie sur son site personnel une virulente tribune contre le projet de traité constitutionnel européen qu'il qualifie de secret cancer de notre démocratie. Donc, vous voyez,
oui,
ça part de loin.
Oui, oui, ça part de très loin. Il ne faut pas grand-chose, évidemment, pour cristalliser les opinions aujourd'hui. Et puis, c'est un mélange, c'est un pot pourri, on va dire, de populisme, des médias sociaux. Vous savez, les gilets jaunes ont réussi là où les bonnets rouges n'ont pas pu réussir parce qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas la même pénétration des médias sociaux dans certaines classes en France. Donc, c'est né d'un bon sentiment, quelque part, cette espèce de révolte contre les impôts. Mais c'est grâce à Facebook, grâce aux médias sociaux, que ça s'est répandu comme une traînée de poudre.
Ouais.
Et donc, il n'a fallu pas grand-chose pour cristalliser ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les raisons ont toujours joué un rôle important dans les révoltes françaises. Il suffit de prendre les événements de 86. À l'époque, ça se faisait avec le Minitel. Donc, les Français sont très friands de réseaux. Mais rajouter aujourd'hui la couche de fake news, d'intox, et là vous avez une recette terrible pour la situation politique en France.
Notre correspondant et ami Marc-André Albert Cormier, conseiller consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, c'est au Canada, madame, monsieur. Il est un homme très engagé et il prend position, hein. Il n'a pas froid aux yeux, comme on dit. Et il a dénoncé catégoriquement la manifestation. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu une manifestation ou pas des Gilets jaunes à Toronto hier.
Il y en a eu une quinzaine à Toronto, puis d'après mes renseignements, hein, merci à Étienne Fortin-Gauthier pour son travail à ce niveau-là. C'était pas forcément des Français de l'étranger, c'était des gens qui avaient vu passer ça dans les médias, donc qui ont pris un gilet jaune, puis qui ont raconté un peu n'importe quoi.
Oui. Moi, ce qui m'a vraiment étonné et fait du mal, c'est quand j'ai vu la situation terroriste, cet acte terroriste à Strasbourg cette semaine,
oui,
et de voir qu'il y a des gens, y compris certains gilets jaunes, qui sont allés dans les réseaux sociaux pour parler de complot.
Eh bien voilà, le complotisme est devenu une maladie des médias sociaux. Et c'est très grave.
C'est très grave.
Oui. Et c'est pas la première et c'est pas le dernier des complots, hein. Mmh. Ça risque de continuer ainsi. Il faut dire qu'il y a une espèce de... Le complotisme a le vent en poupe en France depuis très longtemps, je le reconnais volontiers.
Aux États-Unis aussi, hein.
Aux États-Unis aussi, mais aux États-Unis, ils ont quand même eu la tête d'un président qui a éclaté en direct à la télévision. Mmh. Et on n'a jamais eu le fin fond de l'histoire. Donc il y a une raison pour ça aux États-Unis. Et en France, on a un peu mal copié. Et il ne faut pas oublier que c'est en France qu'il y a eu l'essentiel du complotisme durant septembre, notamment un certain Thierry Messiaen qui a été reçu sur tous les plateaux des médias français, notamment Thierry Ardisson, qui s'en est mordu les doigts par la suite. Donc le complotisme n'est pas nouveau en France, absolument pas.
Alors, certains médias ont fait quand même un travail du terrain, je les félicite. Et il faut avoir du courage, hein, parce qu'il y en a certains membres des médias qui se sont fait rabadouer pas mal par les gilets jaunes. Alors, beaucoup aimeraient ou aspirent qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne. On écoute un extrait des personnes qu'on a interviewées quelque part sur les Champs-Élysées hier.
Enfin, on essaye et il faut qu'on y arrive. Et voilà, donc ça passera par le RIC et ça passera sûrement par autre chose aussi. J'en sais rien, mais en tout cas, on est là et on lâche pas l'affaire.
Merci beaucoup. La suite de la mobilisation, c'est vrai que on se projette dans le sens où il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Certains pensent qu'il y aura peut-être une trêve avant de revenir, peut-être un peu plus
fort. Il n'y a pas de trêve pour la démocratie. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a aucune trêve.
Pour les gens qui sont dans la merde, il n'y a pas de trêve.
Exactement, il n'y a pas de trêve.
Les
mecs qui sont en chien, ceux qui sont en chien, ils sont en chien toute l'année. Et ils sont encore plus en chien à Noël parce qu'ils voient les autres qui sont bien heureux, machin, tout ça, dans leur chaumière. Et eux, ils sont encore plus en chien. Donc si on doit être dehors, on sera dehors encore. Et voilà, nous, c'est la démocratie, on est au taquet et on lâchera pas l'affaire.
C'est que actuellement, ce que demandent les gens, c'est le pouvoir d'achat en premier. C'est de l'argent. On ne veut pas la mendicité. Il faut des salaires, il faut des pensions et il faut que ces pensions soient au niveau du coût de la vie. Et actuellement, c'est ce qui manque. Alors, je pense que ce qu'a dit mon prédécesseur, ça peut être une revendication, mais il faut d'abord que l'argent sorte. L'argent, il y en a. Il y a des gens qui sont milliardaires, à qui on a fait gagner des milliards des milliards d'argent.
Et eux, ils ne payent pas d'impôts. Eux,
il y en a certains, comme le dit le copain, qu'il y en a qui ne payent même pas d'impôts. Total, payent moins d'impôts qu'une petite entreprise.
Il est là, bon. L'argent, il n'est pas chez nous. Hein.
Alors l'argent, il est là. Alors il faut que les travailleurs dans les usines, que les travailleurs, les salariés dans les services publics se battent, se mettent au combat aussi pour pouvoir faire en sorte que les salaires augmentent et qu'on ait un autre niveau de vie.
C'est
un combat qui permettrait de renforcer, nous, les gilets jaunes, et qu'il y ait dans les entreprises pour faire payer ces gens-là qui profitent de notre travail.
Taxer le fret maritime.
Et oui, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais où va-t-il trouver tout cet argent, ce cher président français?
Ah, bonne question. Mais ce qui est intéressant dans ce discours, ça rejoint un peu ce que disait mon prof d'histoire géo il y a plus de 30 ans, je me date un peu. Il dit, vous savez, les extrêmes se rejoignent. L'extrême gauche comme l'extrême droite, ça peut sembler deux pôles opposés du spectre politique, mais quelque part, ils se rejoignent. Ce discours, il pourrait être tenu par Marine Le Pen comme il pourrait être tenu par la France insoumise de Mélenchon. Donc, où est l'argent? Vaste question. Bon, moi, je suis pas économiste, mais je suis tout à fait au courant qu'en France, lorsqu'on gagne très bien sa vie au-dessus de 100 000 euros, on va dire, vous êtes taxé à 45%. Alors, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de s'esquiver. Il y a toutes les méthodes aussi imaginables par les grandes fortunes. Mais même si vous additionnez toutes les grandes fortunes de France, ça fera pas la différence de ce que contribue la population. Donc il y a un petit peu de populo-démagogie dans ce genre de discours, et puis c'est assez monnaie courante. Mais pour revenir à votre première question, le référendum d'initiative citoyenne, moi je suis résolument contre, parce que c'est à mon avis chinter le système démocratique républicain que nous avons en France. On a une démocratie représentative, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a un gouvernement, et puis les référendums en France sont essentiellement réservés, d'après la Constitution française, sur des questions institutionnelles. C'est pas pour la moindre, comment dire, poussée de fièvre dans les médias, et puis là, tout d'un coup, on va sortir un sujet X et le mettre sur un référendum d'initiative citoyenne. Non, ça marche pas, déjà pour commencer. Et même si on instaure un tel système, à mon avis, c'est mettre la démocratie en danger, c'est chinter les institutions.
Il y a aussi un fort pourcentage de Français qui détestent, mais vraiment détestent à en mourir, Emmanuel Macron.
Oui, certainement, mais c'est à la mode en France de détester son président de la République jusqu'à ce que 20 ans s'écoulent et là on se dit « Ah, il était pas si mal hein. !»
Ah. C'est pas la première fois. Il y a aussi dans Courrier International qui dit, et j'ouvre les guillemets, « Les juifs français sont entrés dans le collimateur des gilets jaunes, dont les manifestations sont marquées par une recrudescence de l'antisémitisme un peu partout dans le pays. La communauté juive a signalé ces derniers jours de nombreux graffitis et vidéos antisémites, ainsi que des menaces directes proférées dans des lieux névralgiques et sur les réseaux sociaux. » C'est grave.
C'est extrêmement grave, d'autant plus qu'on va dire il y a une conjugaison de deux formes d'antisémitisme. Mmh. Bon, il y a le nouvel antisémitisme qui se nourrit du conflit du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et ensuite un antisémitisme historique en France qui remonte, là on parle des années 30, des années 20 et même avant, même l'affaire Dreyfus. C'est absolument regrettable de voir ce spectre revenir, et je dirais qu'il y a même certains partis politiques, entre guillemets, honorables, qui ont joué un peu avec le feu à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la caricature de Macron, déguisé en banquier juif. C'était absolument odieux. Et donc, il y a un petit bruit de fond qui, malheureusement, prend un peu plus d'écho aujourd'hui, et il faut lutter contre ça de manière impitoyable.
Alors, il y a beaucoup de mes amis qui veulent quitter la France, mais tout le monde ne peut pas partir de la France. D'ailleurs, pourquoi quitter la France? Il faut essayer de rénover, de réorganiser, de trouver des solutions à l'intérieur même du pays, n'est-ce pas?
Bah, deux choses. Si vous quittez la France, tant mieux. Moi, je suis content parce que les Français de l'étranger, plus on est nombreux, plus on est puissant. Mais bon, bien évidemment, un Français de l'étranger, il a un regard qui est différent. Donc, ça, c'est une bonne chose pour la France. Si vous quittez la France, vous apprendrez quelque chose, mais ne quittez pas pour toujours. Mmh. Si vous ne pouvez pas quitter la France, changez votre pays de l'intérieur, mais impliquez-vous dans un parti politique, parlez à votre député, prenez rendez-vous avec vos élus, vos conseillers municipaux, etc. Mais prenez le système bras le corps et épousez-le pour le changer. Mais des coups de fièvre comme les jacqueries et les petites révolutions, c'est pas ça qui va changer la France.
Et puis il faut dépoussiérer un peu le système français. Il faut bien admettre qu'il y a encore une vieille histoire, une vieille France qui est là, bien installée, qui ont peur de perdre un peu leur pouvoir. Il faut bien admettre. Hein. Tout le monde n'est pas traité d'une façon égale. Et c'est là où on apprécie le Canada, les autres pays, parce qu'on voit tout de suite la différence. Hein.
Tout à fait, mais aussi une nouvelle France qui émerge. Les moins de 30 ans... c'est la France du futur et c'est des changements radicaux dans les façons de penser, les façons de voir leur patrie. Et c'est justement cette classe-là qui doit s'expatrier. C'est pas les 50 ans qui doivent partir à l'étranger, c'est les 20-25 ans qui doivent partir à l'étranger, vivre autre chose, voir qu'autre chose est possible que le modèle auquel ils sont confrontés au quotidien. Et c'est là qu'ils vont pouvoir s'inspirer, que ce soit au sein de l'Europe ou qu'en Amérique du Nord. Allez vivre une expérience à l'étranger, vous en serez enrichi et vous retournerez en France et vous pourrez changer les choses.
Oui, alors merci infiniment. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont participé. J'aime ça co-animer avec vous. Vous devriez être en studio avec nous, comme ça on pourra faire des montages, des blagues, des discussions, des débats, j'adore les débats.
Pourquoi pas, allons-y.
Alors, on se dimanche à 16 novembre. Merci au docteur Youssouf Kalogo, ingénieur, qui a présenté son livre ici aujourd'hui. Et merci mille fois. Vous pouvez aller sur Amazon. DJ Devera, Sloan Ballant et RFI Musique. Nous avons célébré Manu Dibango, mon cher ami, aujourd'hui, qui fête ses 85 ans. Hein. Il chante toujours, il joue sa trompette. Toujours incroyable, n'est-ce pas? Le connaissez? Ah oui, et bien sûr, notre conseiller consulaire pour le Manitoba et l'Ontario, natif de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve, si vous ne savez pas, et un ardent défenseur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah oui, il a créé même un site miquelon.org, un outil de surveillance des médias et de rectification de la désinformation qui pourrait y circuler au sujet de la France. J'adore ça. Et puis, il a été aussi honoré par l'État français, qui l'a fait chevalier dans l'ordre du mérite. Ouais. Eh ben, merci infiniment. Et ici Ricardère, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons faire un tour du monde avec des nouveaux correspondants en direct de Port-au-Prince, de l'Allemagne, de la France. Soyez des nôtres le 23 et le 30 décembre. Si le cœur vous en dit, vous voulez faire partie de la fête. On me dit qu'il y a un réveillon des orphelins à Toronto. Hein? Un réveillon des orphelins pour les francophones et surtout les Français qui vivent ici à Toronto. C'est dans un restaurant coréen sur la rue Bloor, pas loin de Bathurst. Je vais essayer de trouver les renseignements pour vous. Cher ami, merci beaucoup Marc-André et on se donne rendez-vous très prochainement. Hein.
Absolument.
J'espère qu'on se parle avant l'année 2019, je l'espère.
Non, j'espère avant ça.
Et j'espère que la France sera toujours des nôtres en 2019.
Oh.
Au revoir, à très bientôt.
Mama, come, mama, cosa. Oh, bozo. Mosso, mambo, kilo, yo! Mosso, ma, magila, ma cosa? Chamane dina la macosa, di so mi so wikidi, namu wenge mutele jombe, kasa so. Yeah, obo so, macosa na, bos! Ati! Bosa ma, macosa! Go! Mama ko, mama sa, mama ko, oh.
Hey,
so ma ko sa. Mo sa ma, mata so mo gedi mo.
Hey,
Cosa somos la bascula. Ma. Ma.